With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro un petit peu spécial et bien sûr pour m'accompagner l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, je sais pas si je suis excellent mais toi tu l'es et à chaque heure du jour et de la nuit, je le rappelle. Bref, bonjour à toutes et à tous, merci encore de m'accueillir pour cette belle émission Poulain Rafut. Vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez trouver. Écoutez, pardon, dans votre salle de bain, dans votre salle de muscu, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, en France et partout dans le monde. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça remplit pas son frigo, ça flattera son ego. Hein. C'est facile, c'est joli et ça ne mange pas de pain. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour. Une invitée avec un grand E. Et oui, je dis bien un grand E.
Oui, et puis je vais en glisser une petite d'ailleurs, parce que c'est toujours compliqué d'avoir des hommes, notamment de la Fédération française de rugby, des joueurs notamment, et les femmes. Eh bien, à chaque fois, voilà, c'est cadeau. On a la possibilité, en un coup de fil, d'avoir les femmes de l'équipe de France. Et je suis ravi aujourd'hui de recevoir. Je ne vais pas vous la citer tout de suite. J'ai préparé un petit texte, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a des fratries qui marquent notre sport depuis toujours. Pour en citer quelques-unes, il y a eu les frères Boniface, les Canberra-Béro, les Spanghero, les Underwood, la fratrie Tuilagi, les Armitage, les Duplessis, les frères Bergamasco, les frères Lièvremont et plus récemment les frères Marchand, les Couillou et les frères Arnold à Toulouse. Depuis plus de 6 ans maintenant, les sœurs ménagères, Romane la troisième ligne et Marine l'ailière, font les beaux jours du rugby féminin de Lille à Montpellier et surtout en équipe de France. Toutes deux en contrat fédéral depuis 2018, elles sont championnes en 2016 avec Lille, puis en 2019 avec Montpellier. Romane, c'est 3 tournois destination, dont un grand chelem en 2018. Elle est devenue une référence à son poste de troisième ligne et vient d'affronter l'une des deux bêtes noires, de l'équipe de France, les Black Ferns. Safia Ndiaye dit de Romane qu'elle est une joueuse exceptionnelle, bosseuse, technique, physique, une des meilleures joueuses du monde à son poste et qu'elle est fière de jouer à ses côtés à Montpellier et en équipe de France. Gaëlle Hermé, capitaine de l'équipe de France, ne tarit pas d'éloge non plus et nous a avoué que Romane est le genre de joueuse que tu préfères avoir dans ton équipe que contre toi. C'est une joueuse de grande qualité, autant humaine que technique. Et Lénaïque Corson de conclure, c'est une bête de travail, une superbe athlète. Bref, une joueuse complète et une femme qui fait l'unanimité dans le vestiaire et dans la vie. Au sortir d'un match génial et d'une victoire épique face aux Black Ferns ce week-end pour une nouvelle génération de joueuses du 15 de France, Romane fait office presque d'ancienne à seulement 25 ans et elle va nous raconter son parcours, son rugby partagé avec sa sœur Marine, ses ambitions et sa vision du rugby féminin qui prend de plus en plus de place sur la toile et dans le cœur des Français. Merci Marine, merci, et non j'ai mis Marine, mais non c'est Romane. D'être dans Poulain Rafut, décidément, je commence déjà à me confondre entre toi et ta sœur, mais je suis ravi de t'avoir. Salut.
Merci, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir.
C'est un grand plaisir de te recevoir, Marine, j'allais dire, évidemment. J'allais faire comme Raph, et pourtant, j'ai lu qu'il y avait une façon de vous différencier, puisqu'on le rappelle, vous êtes jumelles. Il y en a une qui porte un chignon et l'autre une queue de cheval, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bah, apparemment, c'est très difficile de nous différencier. Bon, moi, je ne m'en rends pas trop compte, mais du coup, le moyen, c'est un peu ça.
Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, Romane. Les Bleus, avec un grand E, comme je l'ai dit en préambule, ont enfin battu les Black Ferns. C'est la deuxième victoire. Il y en avait eu déjà une première en 2018. C'était samedi à Pau, victoire 38 à 13, victoire sans appel. Romane, tu étais titulaire. Avec Raph, on a évidemment très envie de savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on bat les championnes du monde en titre.
Déjà, de jouer contre une équipe comme ça, on est forcément toujours très heureuse de faire partie du groupe. Et en plus de pouvoir les battre, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on sait qu'on a rarement l'occasion de les jouer et encore plus de les battre. Donc, c'est quelque chose dont on se rappelle généralement dans une carrière, je pense. Et encore plus avec un score comme ça et avec le match qu'on a réussi à produire le week-end dernier, c'est que des bons souvenirs et quelque chose qui va faire grandir le groupe, je pense.
Romane, il y a une nouvelle génération qui est en train de pousser derrière toi, derrière vous. Je le disais, tu fais un peu office d'ancienne. Alors, c'est pas du tout pour te vexer, au contraire, mais ça fait quand même déjà 5 ans maintenant que tu es en équipe de France. Et l'équipe de France A7, on va en parler avec Arnaud. Qu'est-ce qu'on pense justement quand on est une néo-ancienne à seulement 25 ans de cette génération aussi qui arrive?
Bah, je pense que c'est génial. Après, du coup, de me dire que je commence à être une ancienne à 25 ans, bah, c'est que derrière, ça pousse fort aussi et que du coup, ça prépare des belles années à venir et ça peut être que bénéfique pour l'équipe de France. Et vraiment, on a un vivier de jeunes derrière qui sont de plus en plus préparés, de plus en plus formés. Et du coup, c'est exceptionnel pour nous.
Roman, tu fais partie de cette génération, entre guillemets, un peu intermédiaire. Et je discutais hier soir, il y avait les Oscars Midi Olympiques, je discutais avec Camille Grassino, qui me disait que pour le coup, elle est un peu plus âgée que toi, elle a connu les prémices hein, du rugby féminin. Elle disait qu'effectivement, la structuration du rugby féminin, le développement des différents championnats, la structuration dans les clubs, à la fédération, fait que, eh bien, y a une nouvelle génération, bien plus rugby, bien plus technique, bien plus douée peut-être que l'ancienne génération. Est-ce que ça fait partie du cheminement du rugby français et des résultats qu'on voit depuis peu avec cette médaille d'argent, on le rappelle, à 7, hein, au JO de Tokyo des filles, et cette victoire sur les championnes du monde en titre.
Oui, c'est sûr, là, on nous met de plus en plus de moyens pour être performantes. On essaye de former les filles de plus en plus tôt. Moi, je suis pile la génération qui a un peu évolué avec l'évolution du rugby féminin. On a commencé les prémices des Pôles Espoir, des Pôles France et toutes ces structures-là qui amènent les jeunes maintenant à être prêtes dès le plus jeune âge et de pouvoir nous rejoindre le plus tôt possible. Donc forcément, c'est quelque chose d'hyper enrichissant pour tout le monde parce que on évolue en même temps et on découvre ce monde un peu vraiment très haut niveau. Et je pense que ça peut être que bénéfique. Et pour l'avenir, bah, les filles, elles arrivent, elles sont prêtes. On peut les mettre. Je vois par exemple une Chloé Jacquet qui a à peine 19 ans. Elle est médaillée olympique avec le 7 là, cet été. Elle joue avec nous. Elle fait des gros matchs. Enfin, c'est une fille qui a été dans le cursus, qui a évolué avec le rugby féminin et qui, on voit, est prête dès le plus jeune âge et est compétitive dès le plus jeune âge.
En fait, j'ai vraiment la sensation en t'écoutant me parler que, en fait, ta génération, c'est ma génération, mais 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que le rugby s'est découvert professionnel en 95, donc au début des années 2000, on va dire, et que toi, depuis 5 ans, en fait, tu découvres le rugby pro et le rugby pro féminin qui se découvre aussi professionnel. Je parlais justement des contrats fédéraux. Aujourd'hui, voilà, ça devient presque naturel. On sait qu'aussi la Fédé fait beaucoup, beaucoup d'efforts, notamment avec Serge Chimon. Donc, c'est pour ça que je dis tu fais office d'ancienne, mais ce n'est pas du tout péjoratif. Mais à 25 ans, tu as déjà connu quand même pas mal de sélections et tu as déjà vu la révolution du rugby féminin, notamment avec une super Coupe du Monde en France il y a quelques années, une Coupe du Monde qui arrive, on va en parler l'année prochaine. C'est quand même une sacrée aventure et voilà, on a besoin, et on va en parler aussi avec Arnaud, voilà, la place des femmes au-delà du rugby, c'est sociétal, on le sait. C'est pour ça qu'on vous donne aussi la parole tout à fait normalement. C'est que voilà, vous prenez de plus en plus de place et c'est assez génial.
Oui, bah, clairement, moi, quand j'ai commencé avec les seniors, les contrats, ça n'existait pas du tout. On commençait tout juste à en parler, à imaginer que c'était possible. Et là, on est en plein dedans, on fait évoluer les choses et j'espère que ça continuera comme ça. Et en club, après, plus tard, je pense qu'on est sur la bonne voie, en tout cas.
Roman, j'aimerais qu'on revienne sur cette victoire sur les Black Ferns parce que vous avez presque un point commun avec Raph. Toi, tu as battu les Blacks. Raph a presque battu les Blacks. Hein, Raph, tu peux nous raconter?
Écoute, on porte de l'équipe de France, comme tout le monde le sait maintenant. Voilà, l'espoir du siècle, machin, patin, couffin. Je suis sur mon canapé, la cheville un peu chibrée, en train de regarder une mauvaise télé-réalité. Max m'appelle et me dit « Comment ça va, mon bébé ?» J'ai dit « Écoute, Max, un peu mal à la cheville. C'est la tournée de novembre, je suis devant ma télé. » Et là, silence pendant 5 secondes. Et je dis « Mais Max, pourquoi tu m'appelles ?» Il me dit « Bernard vient de m'appeler, en fait, il y a un mec qui s'est pété à l'aile, tu vas être remplaçant contre les Blacks à Marseille. » Et là, je me suis mis à voler dans l'appartement et Max m'a dit « Écoute, repose-toi, j'ai loupé ma première sélection avec l'équipe de France. Les Français ont battu les Blacks à Marseille, donc j'ai jamais… »
Dernière victoire de l'équipe de France. Hein.
Exactement, j'aurais pu y être, mais ça fait 20 ans maintenant, tu vois, j'ai plus de cheveux.
C'est énorme.
Enfin, voilà, des souvenirs qui sont devenus de la nostalgie, mais là, j'ai même pas un souvenir parce que j'ai pas vu le truc. Mais là où je suis fier, en fait, c'est qu'en fait, ce qui nous réunit tous les deux, Roman et moi, c'est qu'en fait, on est du Nord, tu vois. On est du Nord de Paris. Au Nord de... Je suis picard, hein. Je suis fier d'être beauvaisien.
Ah, parfait.
Voilà, donc on est du Nord. Et ça, quand même, c'est quand même aussi une belle vitrine, parce qu'on le rappelle que vous avez été championne avec, avec Lille, notamment avec Villeneuve-d'Ascq, le stade où il joue demi-finale de Coupe d'Europe en 2001. J'ai vraiment l'impression d'être un vieux con quand même. Mais
ça nous réunit. C'est juste une impression, Raph.
Je vois ma tête et ma calvitie, c'est pas du tout une impression que c'est. Mais vu que c'est un podcast, les gens ne le voient pas. Tu vois. Ils ne voient pas non plus aussi ce joli bouton que j'ai juste au milieu là. Voilà. Je le découvre en même temps que vous. Bon, pour revenir à toi, Romane, oui, le rugby féminin se développe aussi dans le nord de la France et c'est quand même une très 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 bonne chose quand même, même si tu es maintenant à Montpellier.
Ah oui, mais après, c'est un club qui me tient à cœur. Ben, là, en plus, ce week-end, on a eu la chance d'avoir nos clubs formateurs sur le dos et c'était un vrai clin d'œil pour moi aussi de pouvoir jouer avec ce club sur le dos parce que j'ai tout appris là-bas. On m'a tiré vers le haut et on m'a appris qu'on pouvait faire des belles choses dans le rugby. Et donc, en grande partie, mon évolution, elle est due à ce club-là. Donc, même si je suis à Montpellier maintenant, je le porte vraiment à cœur, ce club-là.
Bon, on va continuer quand même à parler de cette victoire sur les Blacks parce que c'est quand même assez historique. Je suis désolé de recentrer les débats, hein, Raph. Hein. Mais est-ce que cette victoire, c'est aussi une première pierre, Roman, dans la construction du projet du prochain mondial hein, qui se déroulera, on le rappelle, en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre prochain?
Ah oui, clairement, là, on est clairement dans l'année la plus importante. On doit pas se prouver des choses, mais on doit montrer qu'on se prépare bien, qu'on a les qualités et qu'on a le jeu qui peut nous permettre d'être championne du monde, puisque c'est clairement notre objectif de cette saison. Donc, du coup, c'est des étapes qu'on doit franchir au fur et à mesure et qu'on doit pas louper. Que ce soit, ça a commencé là par l'Afrique du Sud, c'était une étape importante aussi. On devait pas se rater sur un match comme ça, et d'autant plus qu'on va les rencontrer en Coupe du Monde. Donc, du coup, c'est quelque chose de super important. On prend les marches une par une, mais clairement, on sait que notre objectif, c'est la Coupe du Monde et un titre à la clé.
Cette Coupe du Monde, on continue d'en parler, elle va se dérouler en Nouvelle-Zélande, Roman. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour une jeune femme qui joue au rugby, qui a découvert le rugby dans le nord de la France, ce qui n'est pas toujours facile, hein Raph, est-ce que de disputer une telle compétition dans un pays dont on dit que c'est la Mecque du rugby, on dit que c'est comme pour un joueur de foot disputer une Coupe du Monde au Brésil, est-ce que c'est quelque chose de mythique?
Oui, je pense que c'est quelque chose de, où on l'imagine pas trop quand on commence le rugby et là se dire ben peut-être qu'on aura l'occasion de faire une Coupe du Monde et en plus dans l'une des plus grandes nations du rugby et je pense que clairement maintenant quand on parle aux gens de rugby ils pensent souvent Nouvelle-Zélande donc c'est quelque chose qui vraiment a beaucoup d'importance je pense aussi et du coup encore plus envie de faire un gros coup là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic par rapport au Black Ferns, justement? Parce qu'on sait, je parlais de vos deux bêtes noires dans le portrait que j'ai dressé de toi. Il y a quand même les Anglaises et les Blacks. Et qu'est-ce qui fait la différence avec l'année dernière? On rappelle, c'était très compliqué face à l'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de la nouvelle génération. Il y a aussi l'encadrement. Voilà, il y a une osmose aussi. Moi, ce que j'aime dans le rugby féminin, c'est ce que le rugby masculin en équipe de France avait perdu pendant 10 ans. C'est la joie de jouer. En plus, ça joue à la balle. Ça fait plaisir à vous regarder. Il y a de plus en plus de millions de personnes qui vous regardent. Est-ce qu'il y a aussi ce public aussi qui pousse derrière ou c'est un tout? Moi, je sais que j'ai eu la chance de gagner des titres au stade parce qu'il y avait tout été réuni. Tu avais le casting, tu avais le président, tu avais le public, tu avais les journaux, donc les médias aussi autour. Et c'est toute cette osmose qui te permet aussi d'aller de l'avant. J'imagine que tous ces ingrédients réunis, ça fait du bien.
Ouais, c'est sûr. En plus, là, on sort d'une période compliquée. Là, c'était les premières fois où on retrouvait vraiment des stades avec des gens qui étaient là pour nous soutenir. Et à chaque fois qu'on rentre dans un stade, nous, les gens, ils sont vraiment, ils sont super. On a vraiment un public super accueillant, super chaleureux et qui nous pousse beaucoup. Donc, c'est quelque chose de génial pour nous. Et puis après, ben, je pense tout simplement, on a un groupe qui maintenant se connaît de mieux en mieux. Qui vit super bien ensemble et donc du coup c'est des coups qu'on a envie de faire ensemble et je pense que c'est surtout l'état d'esprit qui va faire et qui fait que ce groupe évolue très bien et arrive à faire des matchs comme ça maintenant.
Comment tu vis, et ne me dis pas que c'est le groupe hein, mais comment tu vis ta notoriété? Parce que je l'ai dit, tu es une référence à ton poste, c'est l'une des meilleures mondiales. Comment tu vis ta notoriété voilà, de Lille à Montpellier avec cette équipe de France qui explose aujourd'hui? T'es une figure emblématique de l'équipe. Je te dresse pas non plus. Mais comment tu vis cette notoriété?
Ben en fait du coup je pense que c'est juste un plaisir à chaque fois quand on est un peu interpellé par les médias et tout ça, ben c'est quelque chose pour nous qui est hyper touchant parce qu'on se dit qu'on nous porte un peu d'intention, qu'on peut parler aussi au nom du rugby féminin et c'est quelque chose d'important et on sait que la visibilité aussi elle va faire évoluer notre sport. Et donc du coup c'est quelque chose qui est hyper bénéfique pour nous et qui nous apporte plein de choses. Donc c'est quelque chose qu'on prend toujours avec beaucoup de plaisir.
Bienvenue. Justement, justement, c'est le sujet sur lequel je voulais t'amener, Roman. On parle souvent du manque de reconnaissance. On a reçu Jessie Trémoulière, on en a parlé aussi dans cette émission avec Lénaïque Corson. C'est quelque chose qui est assez mal vécu parfois, le manque de reconnaissance, le manque de valorisation médiatique. Hein. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec ce type de performance que vous avez pu réaliser le week-end dernier contre les Black Ferns, parce qu'au-delà du résultat, il y a eu la manière. J'ai un baromètre, c'est mon papa qui a plus de 75 ans, qui connaît pas grand chose au rugby, mais qui a besoin juste de vibrer. Et il m'a dit, je me suis régalé en regardant les filles samedi après-midi.
C'est l'heure du week-end. Hein.
Et effectivement, et est-ce que tu as le sentiment que justement, vous avez aussi un devoir, quelque part, de procurer du plaisir pour aller vers une plus grande reconnaissance de votre pratique?
Oui, je pense rien que de la reconnaissance, c'est important parce que même si le monde évolue par rapport à ça, on est quand même perçu comme un sport d'hommes et je pense que pour des femmes, s'imposer dans un sport comme ça, avoir de la reconnaissance par rapport aux gens qui adorent ce sport et avoir des retours en nous disant ben, c'est génial ce que vous arrivez à produire, on se régale à vous regarder, ben, c'est quelque chose qu'on prend et qui nous tient vraiment à cœur parce que c'est beaucoup de travail, ça nous prend quasiment tout notre temps et d'avoir des retours super positifs sur ce qu'on arrive à produire, notre état d'esprit, ce qu'on fait sur le terrain, ben, c'est quelque chose qui montre que les mentalités évoluent vraiment et qu'on a notre place au sein de ce sport.
Alors ça, c'est un sujet qui tient à cœur, hein, c'est la place de la femme dans le rugby, plus généralement dans la société, mais bon, vu qu'on a quand même un podcast de rugby, j'aimerais que tu te centres. Je sais qu'il faut te cadrer, donc, pour parler du rugby et de la place de la femme dans le rugby, et me fais pas une digression sur la place de la femme dans la société, s'il te plaît, on n'a pas le temps.
Mais non, mais c'est en fait, non, mais tu me dis qu'on n'a pas le temps, mais je vais juste prendre une minute parce que tu peux pas parler, tu peux pas de différencier la femme dans le rugby sur le plan sociétal parce que c'est l'exemple, ça veut dire, c'est presque les problématiques que peuvent rencontrer les femmes dans le rugby est une caricature de ce que les femmes rencontrent dans notre société de par la place des hommes qui savent pas comment faire. On est dans un milieu, et tu l'as dit Roman, on est dans un milieu qui est patriarcal, qui est masculin, c'est un sport de combat, on a des couilles, on a du cœur, on a des muscles. Mais c'est ça, c'est cliché en fait. Donc tu peux pas me dire, Arnaud, de pas faire un monologue là-dessus parce que
je te dis juste qu'on a pas non plus 50
j'entends Arnaud, voilà. Mais moi c'est pas de la colère que j'ai, je suis pas féministe, que je suis pas responsable des 2000 années de patriarcat derrière, mais qu'il y a un moment notre sport évolue, notre rugby évolue et que la femme elle veut juste trouver sa place à nos côtés et on doit lui laisser sa place à nos côtés, c'est juste ça, d'où l'importance de recevoir des femmes dans notre émission et dans les médias, parce qu'en plus ce sport que vous jouez, que vous pratiquez, il est magnifique. Et ce qui me fait plaisir quand tu parles, Roman, c'est que quand il y a des mecs, et je ne parle pas des invités qu'on a reçus parce qu'ils ont toujours été excellents, mais il y a toujours ce rapport un petit peu pas condescendant, mais des mecs qui arrivent dans les émissions et voilà, on a eu de bonnes mêlées, on a pris la Sundown deuxième mi-temps, enfin, on se remettra au travail la semaine prochaine. Bah, il y a ce côté qui pétille un petit peu chez les femmes qu'on a perdu un peu chez les hommes et qu'on retrouve avec cette équipe de France. Donc, je vais me taire, mais il y a un moment où il est tout à fait normal et légitime que vous ayez votre place à nos côtés et surtout dans notre sport parce que parler d'égalité, c'est de la branlette philosophique et je pense sincèrement, c'est pas de l'égalité, c'est que on se doit juste de reconnaître qu'aujourd'hui, vous avez toute votre place à nos côtés et on va trouver la nôtre à vos côtés. Voilà, j'arrête là.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais me faire l'avocat du diable, Roman, mais aujourd'hui, il y a quand même une médiatisation de plus en plus forte autour de l'équipe de France féminine. Est-ce que finalement, la difficulté, elle vient pas par la qualité du championnat qui est pas forcément toujours très homogène? On voit que des clubs se développent très bien. Tu pratiques au sein d'un club qui, pour le coup, a des moyens, qui se donne les moyens de réussir. On le voit avec les différents titres de champion de France des dernières années, mais c'est pas toujours le cas partout. Est-ce que, justement, finalement, on ne parle de rugby féminin qu'à travers l'équipe de France? On en parle très peu à travers les clubs. Est-ce que c'est pas là que le bas blesse?
Si, là, je pense que c'est encore le point à toucher un petit peu pour que le rugby féminin évolue vraiment et passe vraiment une marche de plus, c'est que ben là on a une équipe de France qui est performante parce qu'on donne du temps aux filles pour se préparer et même quand elles sont en club chez elles. Mais après, les filles qui sont vraiment que club, c'est une autre histoire. Elles ont des études, un travail à gérer en plus. Et donc, pour avoir une vraie structure au niveau, c'est compliqué. Les clubs n'ont pas forcément les moyens non plus de proposer ça aux filles. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment une marche à franchir et des points à régler un petit peu sur les clubs pour pouvoir faire évoluer encore plus le rugby féminin en France.
J'aimerais qu'on parle un peu de toi maintenant, Romane. On va revenir un petit peu sur ta carrière. Raph l'a dit, hein, tu es passé et tu as été formé du côté de Lille, plus précisément du côté de Villeneuve-d'Ascq. Tu évolues aujourd'hui à Montpellier. Et du coup, alors, tu vas nous dire si oui ou non, on peut parler de transfert, mais on découvre que du coup, les joueuses changent de club aussi. Bah, j'imagine que c'est dans une perspective de progression. Explique-nous comment ça se passe, les transferts chez les filles. Est-ce que Moed Altrad, le président de Montpellier, a versé 1 million d'euros au club de Villeneuve-d'Ascq?
Non, nous,
c'est 2 millions.
C'est vraiment particulier, c'est vraiment amateur chez nous. On décide d'aller dans un club, on n'a aucun contrat, on paye notre licence comme tous les joueurs amateurs, on s'engage dans un club grâce à notre licence, mais c'est un peu tout. Après, en général, du coup, les choix de club, c'est par rapport à des envies de progression, des envies de changement ou de vie perso, mais tous ces paramètres-là, ils sont très différents, je pense, des paramètres un peu qu'on peut voir chez les garçons.
On parle un petit peu de ta carrière, et quand on évoque ta carrière, Raph l'a dit aussi, elle est un petit peu indissociable de celle de ta sœur jumelle Marine. Une question un petit peu difficile parce qu'elle touche l'affect fraternel. Est-ce que c'est difficile de pouvoir mener une carrière internationale finalement sans avoir sa sœur jumelle à ses côtés au quotidien? Parce que vous partagez beaucoup en club, vous êtes ensemble à Montpellier, vous étiez ensemble à Lille. Je crois que même vos parents vous ont grandement suivi sur vos premiers pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir partager ça avec ta sœur?
Forcément, on est toujours un peu attristé quand on n'est pas en sélection ensemble ou quand une est blessée, donc du coup on part un peu toute seule. Après, c'est quelque chose du coup que maintenant on a appris à faire avec. Ça fait toujours du mal, mais on essaye d'apprendre à faire avec parce qu'on ne veut pas que ça touche notre rugby non plus. On sait qu'on soutient beaucoup, on n'est pas des grandes bavardes, mais on sait qu'on a toujours un grand soutien, peu importe les décisions qui sont prises derrière ou non, ça n'impactera pas notre soutien envers l'une et l'autre.
Comment vous découvrez le rugby? C'est ta grande sœur, j'ai cru comprendre, qui vous a fait découvrir le rugby, mais ton père était rugbyman ou ta mère était rugbywoman? Enfin, comment ça s'est passé Parce que déjà dans le Nord, hein, c'est pour des femmes, voilà, il faut insister, mais derrière, voilà, comment on arrive à jouer au rugby et comment les jumelles se sont mises au rugby?
Nous, chez les ménagers, on a tout fait à l'envers. En général, c'est les parents qui commencent, les enfants qui suivent. Et là, c'est notre grande sœur, en fait, qui a découvert ça avec une initiation à l'école. Et du coup, elle s'est inscrite au club de Villeneuve-d'Ascq, là où on habite. Et nous, on allait la voir aux entraînements. Et ma mère, elle était bénévole au club. Elle préparait les bouteilles après les entraînements et tout ça. Et on est tous un peu rentrés dans ce bain-là. On a pris une licence. Et nos parents, à force d'être au club, ils se sont dit, ah, bah, tiens, ça serait sympa d'essayer nous aussi. Et donc, du coup, mes parents ont commencé le rugby un peu après nous en loisir. Et ma maman a fait un tout petit peu de top 8 à l'époque. Et donc, voilà, on a fait un peu le cursus à l'inverse, et les enfants en premier et après les parents qui ont suivi.
Est-ce que tu peux nous parler de ce club de Villeneuve-d'Ascq, qui est quand même un club assez spécial, ces fameuses putains de nanas? J'ai eu la chance, rappelle-moi le prénom de cette jeune fille qui s'était pété les
cervicales. Un problème au cervical.
Alice.
Ouais, j'avais fait son,
Alice, j'avais fait son
portrait il y a quelques années. Et toi, quand tu étais Superwoman, on a passé un super moment.
Ouais,
sur les.
Je m'en rappelle.
Et c'était top. Et tu peux nous parler de ces super nanas? Enfin, c'était quand même très, très particulier parce que vous avez été championne d'ailleurs en 2016. Et on la voit, c'est à peu près cette année-là d'ailleurs où je vois Alice, et elle était très frustrée de ne pas avoir joué. Mais il y a quelque chose de très spécial. Au-delà du Nord, et on va arrêter d'en parler parce qu'à chaque fois, ça me... mais c'est quand même... Voilà, vous avez vécu une aventure extraordinaire à Villeneuve-d'Ascq quand même.
Oui, bah, complètement. Je pense que là, on a découvert complètement tout ce qui était le rugby famille avec un grand cœur Et là, je pense qu'on a, on n'a pas forcément toujours eu les plus grandes joueuses de France dans notre à Vinovdask, mais il y avait tellement de cœur et d'envie dans ce groupe que ça fonctionnait. Et on en a fait, je sais, on a perdu beaucoup de finales, mais on en a fait quand même pas mal avant de gagner le titre avec Vinovdask. Et je pense que vraiment c'était qu'il y a, dans cette équipe-là, il y avait vraiment un supplément d'âme et un vrai groupe qui s'aimait beaucoup. Et je pense que c'est ça qui a fait ce club et qui fait encore ce club maintenant, même si c'est un peu plus compliqué parce que c'est un renouvellement aussi, mais c'est un très grand club par rapport à ça. C'est qu'ils ont des vraies valeurs rugby que j'aime beaucoup.
Dernière question sur le Nord. Il est passé où ton accent? C'est le fait que tu joues à Montpellier après, parce que tu sais, je raconte juste l'anecdote, c'est Georges Coudane qui est un mec qui ça, d'ailleurs s'occupe des féminines au Stade français. Le mec il vient de Saint-Cloud. Et à chaque fois qu'il parle de rugby, il prend l'accent d'Aqua, tu vois. Donc, il y a des trucs d'accent. Même moi, je l'ai parfois, mais je n'ai jamais trop chopé l'accent picard. Mais l'accent du Nord est quand même très spécial. Mais tu ne l'as pas trop, il n'est pas très prononcé chez toi. Qu'est-ce qu'il est passé où?
Je ne l'ai jamais eu. J'ai mon papa qui est picard et ma maman qui est vraiment du Nord. Et je pense que le mélange des deux, ça a fait un petit accent neutre. Donc, du coup, sur ça, ça va. Mais non, je n'ai jamais trop eu.
En troisième mi-temps, il ne ressort pas un peu?
Je sais pas à quoi je ressemble en troisième.
Demanderai à ta sœur.
Bon, alors si allez. Je peux me permettre un avis personnel, c'est pas plus mal si t'as échappé à l'accent du Nord quand même. Bref, passons. Roman, t'as aussi la particularité quand même d'être international à 7 et à 15. Raconte-nous un petit peu quand même la complexité de mener deux carrières sur deux sports différents. Je sais pas si tu as eu le temps de. Ah bah non, j'imagine que t'as pas vu le Super Seven puisque tu jouais les Black Ferns. Mais on a vu ce week-end dans le Super Seven alors qu'il y avait tous les clubs de top 14 réunis pour cette finale, enfin pas tous, mais en tout cas ceux qui étaient qualifiés. On parle de Pau, La Rochelle, Biarritz, quand même des avec des grands noms. Je parle d'Antoine Astoy, de Teddy Thomas. Oui. On a vu que finalement les deux équipes finalistes, c'est deux équipes, donc Monaco et les Barbarians, composées quasi exclusivement de purs sétistes. Comme quoi, ce sport est une pratique à part entière, avec toute sa complexité, et qu'on ne passe pas du 15 au 7 aussi facilement. Explique-nous un petit peu, Roman, comment toi tu fais pour passer de l'un à l'autre.
Ben moi j'ai fait surtout l'année dernière 15-7, c'était un peu ma première année où je faisais les deux et c'est forcément très compliqué à concilier et je pense que je suis peut-être pas la plus à même d'en parler. Il y a des Caroline Drouin par exemple qui font très bien les deux, mais c'est, je pense que ça peut apporter dans les deux cas au 15 comme à 7, mais c'est juste une bonne gestion par rapport à tout ce qui est charge d'entraînement et tout ça qui peut être vraiment très très importante pour le 7, puisque c'est vraiment un sport qui demande une grosse exigence physique et qui du coup peut être coûteux. Mais après sur le point technique, physique et tout ça, c'est des sports qui s'apportent beaucoup, je pense.
Tu devais participer aux Jeux Olympiques, tu aurais dû peut-être ce 31 juillet 2021 avoir une médaille d'argent autour du cou, et malheureusement quelques temps avant tu as été contrainte de déclarer forfait pour une accumulation de commotions, si je me trompe pas. Comment tu as vécu cet épisode? J'imagine que ça a dû être douloureux, non?
Oui, forcément. Je pense, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, quand on est un peu bloqué, privé dans ce qu'on aime et bloqué sur des gros événements, bah, c'est toujours compliqué à accepter sur le moment. Après, là, c'est des blessures où maintenant, on a de plus en plus de recul et on sait qu'on ne doit pas faire de bêtises avec ça, donc ça m'a vite calmée aussi. Je me suis dit que là, il fallait bien prendre le temps de se reposer et de prendre un peu de recul sur ça pour pouvoir repartir sur une bonne saison. Quand on en enchaîne un peu trop dans la saison, on se dit qu'il faut prendre le temps aussi pour revenir en pleine forme et faire une vraie saison pleine après. Ça sera d'autant plus bénéfique, je pense.
Alors, pour les médailles ratées, pour les titres ratés, si je puis me permettre un conseil, je vais te donner le numéro de téléphone de Raphaël Poulain, parce qu'en la matière, il s'y connaît. Raph, un conseil peut-être pour Roman, pour vivre ce genre de moment difficile, toi qui as raté à peu près 28 finales.
Ne m'écoute pas. Raccroche, va te préparer, raccroche, ne reste pas là. Non, il n'y a aucun conseil à donner, mais je pense que les deux sports sont complémentaires entre le 7 et le 15. Maintenant, la blessure, c'est toujours chiant. Quoi.
C'est ça.
Et c'est très compliqué à vivre parce que tu vois le train passer, parce que tu vois le trophée passer et que... tu peux le soulever, mais tu n'as pas fait partie de l'aventure. Moi, je faisais partie de l'aventure pendant trois quarts de la saison. Et puis après, je n'étais pas sur les finales. Donc, c'est très, très frustrant. C'est très, très dur à vivre. Mais il y aura d'autres titres. Moi, ce que j'aime chez Roman, sur ce que tu racontes, c'est que y a une honnêteté, une sincérité. Ce qui m'a marqué tout à l'heure dans ton discours, c'est notre objectif, c'est d'être championne du monde, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce discours-là, mais c'est, je trouve que c'est une belle ambition. Donc surtout, ne lis pas mon livre, surtout, enfin, j'espère que là, voilà.
C'est déjà fait, ça.
Ah merde. Je te le dédicacerai quand vous serez championne du monde. Allez.
Puisqu'on parle de JO et d'ambition, Paris 2024, c'est dans la tête quand même, Ronan ?
Pourquoi pas ? Là, en fait, je pense que ça fait tellement d'années que je rêve d'une Coupe du Monde comme celle qui arrive que je suis surtout focus sur ça. Et je pense je vais prendre étape par étape. Pour l'instant, ce sera Coupe du Monde et on réfléchira à la suite après. Mais ça peut être une belle aventure aussi, je pense.
Attention, attention, Roman, parce que là, de ce que je viens d'entendre, là, on prend les matchs les uns après les autres. Tu commences justement à parler comme les mecs. Fais gaffe.
Hein, attention.
Hein, si je peux me permettre.
Allez. Bon, on le rappelle, cette Coupe du Monde, ce sera l'année prochaine, hein, du 8 octobre au 12 novembre. Ce sera en Nouvelle-Zélande. Ça se jouera essentiellement à l'Eden Park d'Auckland, un des stades les plus mythiques, hein, du rugby mondial. Ça va être un événement assez exceptionnel. Paris 2024, c'est encore loin. La prochaine échéance, Roman, on en parle rapidement. C'est ce week-end à Castres. La revanche des Black Ferns, peut-être.
Oui, ben, je pense qu'elles ne vont pas se laisser faire comme ça. Elles ont déjà eu deux matchs compliqués contre l'Angleterre. Le match contre nous la semaine dernière, et connaissant les filles qui jouent un peu dans cette équipe et le caractère qu'elles ont, elles vont pas se laisser faire comme ça. Donc il faut se préparer très sérieusement et pas le prendre à la légère, même s'il y a eu un écart de points important. C'est pas forcément hyper représentatif de cette équipe là, je pense.
Raph, le mot de la fin, il est pour toi. On va remercier ensuite Roman Ménager, je rappelle, international, vainqueur des Black Ferns le week-end dernier et sur le terrain, probablement. L'équipe n'a pas encore été annoncée, hein, si je ne m'abuse.
Non, pas encore.
Bon, allez, je me lance. Roman Ménager sera titulaire probablement ce week-end à Castres pour défier les Black Ferns. Raph, le mot de la fin, il est pour toi.
Ouais, merci beaucoup. Écoute, j'ai été ravi de te recevoir, Roman. Vraiment un vrai plaisir. J'ai envie de dire, vraiment pour conclure très rapidement, pas faire de grands monologues, mais vive le Nord déjà. Hein, vive le rugby et vive les femmes dans le rugby. Et une belle victoire pour confirmer justement cette belle lancée vers la Coupe du Monde l'année prochaine. Merci de ta sincérité, de ton sourire. Ravi de t'avoir reçu. Ravi d'avoir aussi eu les témoignages de Gaël, notamment de sa fille, que je remercie, et de Lénaïg, qui ont joué le jeu pour, ben, voilà, pour me confirmer et nous confirmer en fait que tu es une putain de nana et une belle carrière à toi. Voilà, tu es ancienne, mais tu as encore 10 années derrière toi, donc profites-en bien, surtout. C'est le seul conseil que je te donnerai. Voilà, merci à toi.
Bah, encore bon. Merci à vous, c'était super sympa.
Roman, merci beaucoup. Poulain Rafut, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. C'est toujours aléatoire en fonction de nos invités. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.